Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois.
Popular, we're revered, man. Studs. When the smoke clears, right? Those two dames fall amazingly, completely, and totally in love with us. Why? Check it out.
Yo! Check us out!
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Belluno et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jones. David, comment ça va ce soir?
Ça va pas mal, toi Sébastien?
Ça va fatigué. Je pense que ma journée de samedi, j'ai toujours pas complètement récupéré de...
Bah, oh, c'était très français ça.
Ouais. Récupérer de samedi journée. Alouette. Mais, ouais, écoute, breaking news. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça avant qu'on enregistre l'émission. J'ai vu passer une nouvelle que je voulais te partager à tout le monde. Zack Snyder ne continuera pas le film de... voyons, de Justice League, qui est en post-production en ce moment, là. Il a dû quitter parce que sa fille de 20 ans s'est suicidée au mois de mars.
Oh.
Et il a décidé que lui et sa femme, ils ont besoin de temps pour leur famille. Donc, c'est Joss Whedon qui va terminer la post-production de qui vient en aide à son ami. Mais ce que je trouve drôle, c'est que beaucoup, beaucoup de gens ont... craché sur Zack Snyder puis ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Tu sais, tout le monde se disait « Ah, oh, oh, il faudrait qu'il soit remplacé pour le prochain. » Puis là, tout le monde est un peu comme « On voulait qu'il soit remplacé, mais... »
Pas pour ces raisons-là.
Pas comme ça.
pas de cette manière-là.
C'est comme « Be careful what you wish for. » Mais ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire comme nouvelle. Là. Quand même une grosse nouvelle. Là.
Ouais, quand même.
Ouais, c'est triste. Sa fille s'est suicidée en mars dernier.
Eh ben.
Donc, je commence l'émission avec. Ça, c'est vraiment un petit down de pas partir.
Ouais, c'est ça, tu casses ça, ben, en partant.
Et toi, comment ça va, David?
Ouais, ça va bien, j'ai une belle fin de semaine. Comment était ta fin de semaine à toi?
Ah, c'est ça, chargé, hein? C'était le Festival des Harmonies en fin de semaine, là. Fait que j'ai traîné mes élèves à Sherbrooke samedi. Est-ce que j'ai le droit de chialer un petit peu?
Ben, c'est toi l'animateur.
C'est vraiment l'enfer, le trafic pour sortir de Montréal, parce que, tu sais, le pont Champlain, c'était fermé, hein, en direction sud. Là, le pont Victoria, notre chauffeur d'autobus est allé vers le pont Victoria, mais les véhicules lourds peuvent pas aller sur le pont Victoria. Fait qu'on on a été après ça jusqu'à Jacques-Cartier. Une fois traversé Jacques-Cartier, on était pogné dans le trafic, ça a pris 1h40 avant qu'on se mette à rouler pour le reste de l'autoroute. C'est presque aussi long que ça rentre à Sherbrooke. Ben, c'est à peu près ça, en fait. C'est
1h45. Ouais, c'est pas mal ça, en fait. Ouais.
Fait que d'aller
c'est vraiment l'enfer.
Tu sais, où j'enseigne, on s'entend que c'est pas très loin, là. Quand même, en plus, là. D'aller de là jusqu'à l'autoroute, jusqu'à la 10, 1h40.
Quand même.
C'était l'enfer. Toi, ta fin de semaine?
Ben, en fait, je te posais la question parce que ma fin de semaine inclut toi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, on avait j'ai pensé comme un coup de vent au party de fête à ta fille qui a un an déjà.
Ben oui, un an, ma petite pinotte. Et puis, ben, en fait, t'as fait quand même plus que passer un coup de vent. Là. Vous étiez resté quand même une couple d'heures. Là. Tu m'as aidé à flipper des burgers. Fait que...
J'ai échappé un hot dog à terre aussi.
J'ai mangé la saucisse.
T'as mangé ma saucisse que j'avais traînée à terre.
J'ai mangé ta saucisse. Mais ouais, puis Écoute, il est resté de la viande. Mais tu sais, je voulais tout cuire la viande. Puis mais ouais, c'est ça, on a reçu 25 personnes hier, nous autres. Fait que ma fin de semaine, ça a été de la cuisine.
Et du ménage.
Et du ménage.
De la vaisselle.
D'ailleurs, qui est tout à refaire, là. Le matin, le plancher était collant partout, c'était dégueulasse.
Yeah! Ouais, fait que c'était une grosse fin de semaine. Ça fait du bien ce soir de d'être relax, de faire un épisode en prenant une bonne petite bière et en discutant de notre film de la semaine.
Le film de la semaine, il s'agit de Weird Science de 1985. Le synopsis, c'est donc deux jeunes garçons du nom de Gary et Wyatt, crée une créature de rêve. D'où le nom en français, d'ailleurs, de ce film, Créature de rêve. Cette créature de rêve, du nom de Lisa, va emmener Gary et Wyatt dans une aventure rocambolesque pour un peu, en fait, les forcer à devenir des hommes, à afficher leurs couleurs, à prendre des décisions, puis à vivre avec ces décisions-là, à mettre leurs pieds à terre quand ça ne fait pas leur affaire. Et voilà, c'est tout simplement ça l'histoire. C'est assez... mais en fait, c'est weird. C'est complètement pété comme scénario. Il y a plein de scènes. C'est un enchaînement de scènes complètement flyé, là. Mais une des affaires que j'aime beaucoup, moi, dans ce film-là, c'est que souvent dans les films américains, pour qu'un garçon devienne un homme, ça implique qu'il doit puncher quelqu'un d'autre d'en face.
Ouais.
C'est très souvent ça dans les films. On pense entre autres à Back to the Future, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Le père de Marty McFly, il devient un homme quand finalement il punch Beef d'en face. Comme s'il fallait puncher quelqu'un en face. Moi, je trouve que je suis quand même un homme, là, tu sais, puis un père de famille dévoué et tout, là, mais je n'ai jamais punché personne d'en face. Là. Bref, je trouve que c'est vraiment une histoire, ben, comme tu l'as écrit dans les show notes, je trouve que l'expression en anglais est très bonne, « coming of age », une histoire de passage. En fait, « Weird Science », c'est comme « Eat, Pray, Love », version science scientifique sci-fi 1985. Voilà.
Voilà, je m'amuse à regarder, je reçois des messages. Là, ça a l'air que cette semaine, on est en écoute. Tu sais, tu viens la semaine passée, là, il n'y avait pas de son sur le,
le stream.
Là, ça a l'air qu'on est en écho. Tu sais, comme je te disais, la raison pour laquelle il fallait que... C'est merveilleux, la technologie. On va continuer, hein, pour les gens qui écoutent un podcast. Là, si vous passez le message... Là, David Martel est sur le sujet pour savoir si ça marche comme il faut. Oui, c'est ça, c'est vraiment un coming of age, l'histoire classique de deux jeunes adolescents qui deviennent des hommes.
En fait, je pense que la traduction française de coming of age, c'est voyage initiatique.
Ouh, hey, mais tu trouves pas que ça sonne plus beaucoup plus spirituel quand même?
Oui.
Je sais pas, man, j'ai l'impression d'embarquer dans une secte quand tu dis voyage initiatique. Oh,
effectivement.
Faut pas couler,
mais qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là, toi?
J'ai bien aimé. Bon, je pense que je l'avais jamais vu dans son entièreté. J'avais vu des petits bouts ici et là, mais jamais au complet. En fait, pendant que je regardais le film, ce que je me disais, c'est un, ça, on n'en fait plus des comédies de ce genre-là aujourd'hui. Et deux, on dirait que il y a comme 12 personnes différentes qui ont fait le scénario sans s'en parler, tu sais. Puis sans voir ce que la personne avant avait écrit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ben oui, c'est un peu dans la description que je faisais un peu plus tôt. Ouais. C'est un paquet de tableaux qui se suivent, mais qui ont comme pas vraiment de lien les uns avec les autres.
Ben c'est pas tant des tableaux. Tu vois l'affaire, tu sais, qu'on avait fait Monty Python. C'est, ouais. C'est vraiment des tableaux qui s'enchaînent. T'sais, on voit tac, tac, tac. Là, ouais, c'est que c'est plus imbriqué. Tu comprends? Il y a une espèce de flow plus constant. Il n'y a jamais de coupure vraiment dans le film. C'est très, très, très constant. Tu sais, comme toute la party.
Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais Mais on s'entend, il y a quand même la scène de la création. Ben, premièrement, il y a la scène à l'école secondaire avec, avec Robert Downey Jr. puis l'autre Zouf qui baisse les culottes. Après ça, il y a la scène de la création de Lisa. Après ça, il y a la scène où est-ce qu'ils s'en vont dans le bar. Après ça, il y a la scène où est-ce qu'ils reviennent à la maison puis ils rencontrent le frère de Wyatt, je pense. Je me rappelle plus lequel des deux, en tout cas. Il y a comme un enchaînement comme ça de situations qui fait en sorte que l'histoire avance. Mais je comprends ce que tu dis dans le fait que l'enchaînement est beaucoup plus fluide que dans Monty Python, mais il reste quand même que c'est un enchaînement de tableaux.
Ouais, mais ça devient beaucoup plus décousu à partir du party. Partir du party, Len, c'est que ça sent... Écoute, là, tout à coup, il y a des gens qui comprendront absolument rien de ce que je parle. C'est comme... ça devient plus contrapuntique, tu sais, comme... C'est comme un contrepoint. Les lignes embarquent une par-dessus les autres. Au lieu d'avoir une écriture qui est très, tu sais, Monty Python, qui est écrit comme ça, hein?
C'est plus harmonique.
Ouais. Là, c'est ça devient une espèce de fugue. On tombe dans
Autrement dit, c'est beaucoup plus horizontal. C'est des superpositions de couches à partir du party plutôt qu'un enchaînement de scènes dans le temps.
Merci de me traduire. Mais, mais ce que je trouve vraiment hot, c'est que malgré le fait que ça n'a pas rapport toutes ces patentes-là en même temps qui se passent et qui se superposent les unes aux autres, je sais pas comment ça se fait, mais ça se tient. Ça donne un récit qui, dans cet univers-là, crée, dans le, t'sais, parce qu'on s'entend qu'il crée rapidement un univers dans ce film-là au début, ça, tout se peut, donc ça fonctionne.
Oui.
Et c'est ce que j'ai trouvé génial dans la manière que c'est écrit. On se fait garrocher de l'impossibilité de faire aucun sens, mais jamais on se dit « Hey man, c'est n'importe quoi ». C'est n'importe quoi, mais c'est correct.
Ben c'est ça, c'est parce que la prémisse, c'est que c'est n'importe quoi.
Ouais.
Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui c'est n'importe quoi, ben ça rentre dans l'univers, comme tu dis. Tu sais, la scène où est-ce que Lisa, elle s'en va chez Gary avec son... Je vais t'appeler là.
Ouais, elle s'en va chercher Gary, puis elle parle avec ses parents, là.
Ouais, c'est ça, la scène avec ses parents.
Oh, man.
Elle dit, ouais, on s'en va dans un party. Puis là, les parents, non, vous n'allez pas d'importer. Ouais, il s'en va dans un party. Puis là, elle sort un gun. Puis là, je dis, what? Il y a une espèce d'effet boule de neige. Là. C'est comme, what? Dans quoi ça s'en... Dans quelle direction ça s'en va, cette affaire-là? Puis là, finalement, il se pousse en auto, tout ça. Et puis, la seconde après, il se rappelle plus de la situation. Plus que ça, son père, il se rappelle pas qu'il y a un fils.
Ouais. Elle efface la mémoire de son père. Mais écoute, c'est... tu sais, pour revenir au début de mon propos, c'est le genre de comédie qu'on voit plus et que je m'ennuie quand même.
Oh, je sais pas toi. C'est une belle comédie, je trouve.
Je m'ennuie de ce style de film-là. C'est John Hughes, évidemment, qui nous a donné les années 80. pour vous donner une idée, là. C'est lui qui a fait National Lampoon's Vacation, 16 Candles, The Breakfast Club, European Vacation, évidemment, Weird Science, Pretty in Pink, Ferris Bueller's Day Off, Planes, Trains and Automobiles, Uncle Buck, Christmas Vacation, Home Alone, écoute, Beethoven, Home Alone 2, Dennis the Menace. C'est
ça.
C'est incroyable.
C'est le résumé de mes années 80 en film, ça.
Mais tu sais, c'est des films iconiques pour les gens qui ont grandi dans les années 80. Parce que c'est des films qui représentent tellement bien ce que c'était d'être adolescent. Moi, j'étais quand même plus jeune, mais j'ai une soeur qui a 7 ans de plus que moi, là, fait que je l'ai vu. Là. Écoute, c'est ça. C'est la vie. C'est que ce gars-là a représenté la vie de ces adolescents-là. Tellement bien avec des sujets qui les intéressaient, tu sais, mais en faisant un film qui est pas c'est pas nécessairement adressé, tu sais, aux adolescents, c'est pas un film pour ados, c'est un film pour tout le monde, tu sais. Avec des tatons de fois de temps en temps.
Ben, c'est ça, j'allais dire, tu sais, dans mes show notes, là, t'écris tout le temps des affaires. pour les auditeurs qui nous écoutent, donc on a différentes sections. Les habitués de l'émission les connaissent déjà, mais bref, on commence toujours par le scénario, acteur, effet, décor, costume. Et après ça, on a une section autre ou varia. Sébastien écrit jamais rien dans cette section-là, sauf.
Boobs. Non, non, mais écoute, ça me fait rire. J'ai une espèce de... J'ai une fixation, pas sur les boules, mais une fixation sur l'utilisation des boules dans les films des années 80. Parce que c'est comme dans ce film-là, là, c'est totalement inutile. Ça sert à rien. Il y a une fois où on voit vraiment les boules d'une fille, puis c'est juste que son linge, il se fait aspirer par la chemine, par le foyer.
Ouais, c'est ça.
C'est tout. Je te dis.
Puis c'est même pas Lisa, la créature de rêve.
Non! Ça servait à rien. Fait que c'est pour ça que j'ai mis boobs gratuit. Mais. moi, j'ai
c'est
quand même...
pas mal ça.
Ah, c'est très gratuit. Mais.
Mais pour en revenir au scénario, qu'est-ce que je voulais te demander? C'est quoi ta scène préférée de ce film-là? C'est le tableau préféré de ce film-là?
Moi, ma scène préférée. C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup des bonnes.
C'est ça, hein? Il y en a vraiment des très punchées. Tu sais, la première scène avec Lisa dans la douche. Ils vont prendre une douche, les trois ensemble. Lisa est tout nue. Les deux gars ont gardé leurs pantalons, puis leurs bas, puis leurs souliers.
Ben, c'est ça qui est cool parce que, dans le fond, ça cherche juste à nous montrer que, tu sais, cet aspect-là des ados qui ont 15-16 ans. Puis qui se prennent pour des adultes. Puis tu les mets dans une situation d'adulte, là. Ils savent pas quoi faire. Ils sont pas à l'aise. Ils sont pas rendus là. Quand on est jeune, on veut être vieux. Puis quand on est vieux, on veut être jeune. Mais, tu sais, je sais pas si tu t'es déjà dit ça. Tu sais, hey, j'aimerais ça avoir 20 ans, mais avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui.
Ouais, mais c'est ça.
Ben... Parce que je voudrais pas revenir, genre.
Ben, c'est ça. Moi, il est hors de question que je revienne en arrière. Là. Je veux dire, j'ai tellement fait de. Quand j'avais 20 ans, ça fait 16 ans de ça. Bientôt 17. No way que je retournerai en arrière. J'ai vécu des affaires beaucoup trop pénibles. J'ai eu des très belles expériences, mais j'en ai eu des vraiment pénibles, mais qui m'ont forgé. Tu sais, je reviendrai jamais en arrière. Puis des scènes de douche, moi j'en ai vécu. Tu sais, puis je saurais quoi faire avec Lisa dans la douche.
Ouais, à cette heure, on pourrait écrire un livre là-dessus. Mais non, mais je trouve ça génial parce que ça démontre tellement bien ça. Le côté dans le fond, tu sais, la vie, il faut que ça soit vécu, faut que tu prennes le temps de vivre des expériences. Il y a vraiment il y a plusieurs leçons dans ce film là il y a ça, ce que je te dis, la vie, tu sais, laisse le temps, les choses y vont arriver. Il y a aussi toute une leçon sur, tu sais, un truc sur s'assumer, tu sais.
Oui,
une grosse partie du film est basée sur, puis c'est quelque chose qui est difficile à l'adolescence. Puis je veux dire, je l'ai vécu. Là. Moi, tu sais, j'étais un geek au secondaire. Là. En 95, tu sais, aujourd'hui, là, tout le monde va voir des films de Marvel, des films de super-héros, des trucs de même, puis Star Wars, c'est hot. Là. Man, en 95, j'étais un extraterrestre là, au secondaire. Là. Mm. Tu sais, je regardais, je lisais des romans de Star Wars, puis je jouais au jeu de rôle de Star Wars de D6 là, avec des amis le midi. On était trois. On est à trois.
Ouais. C'est ça. C'est ça. En fait, je pense que tu décris la réalité de beaucoup de jeunes, en fait. Mais... Enfin, bref. Moi, ma scène préférée de ce film-là, c'est quand Lisa est créée et qu'elle ouvre la porte. OK. Next, on enchaîne.
Non, non, mais j'ai pas dit ma scène préférée encore.
Ah, excuse.
Come on, là. On va revenir sur ta scène après. Non, mais... mais ma scène préférée, je pense, c'est quand ils sont dans le bar.
Ah. C'est
puis,
cœur, hein?
Puis il est sous. Mais toutes les conversations avec. Ah, c'est beau, 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 beau.
Ah, c'est magnifique.
Là, tu sais.
Il y a des scènes weird, là. Tu sais, quand. Oh, non, une autre de mes scènes, une que j'aime bien. Bon, parce qu'il y a les scènes où est-ce que Lisa est là, puis c'est cute, là. Mais il y a les scènes aussi où est-ce que c'est juste Wrong. Puis la scène où est-ce que Wyatt rentre dans la cuisine, puis il y a son frère qui est là. Lisa vient juste de partir, puis Wyatt arrive, mais il est habillé en Lisa.
Ouais.
Avec les bobettes, le tong, là, puis l'espèce de petit chandail ben trop court. Là. C'est juste
tellement wrong. C'est beau. Là. Ah, mais tu trouves pas que... C'est-tu juste moi là, qui trouve qu'il y a quand même un côté weird, genre semi-pédo dans ce film-là, mais tu sais, pédo inverse.
Ben, écoute, justement, en ce moment, là, sur le slideshow, il y a Wyatt, la scène du balcon avec Lisa.
Ouais.
Où est-ce qu'ils s'embrassent finalement les deux, tu sais. Mais ça a l'air que au shooting, là, quand ils ont tourné ça, finalement, Wyatt, lui, à un moment donné, c'est un petit tabarouette, fait il a décidé d'utiliser la langue sur une des prises, puis il a comme rentré sa langue solide dans la bouche de l'actrice, tu sais. Fait que là, l'actrice, elle essaie de garder son rôle, tu sais, puis là, la scène a fini, la cote... je cherche mes mots, je suis trop fatigué. Mais en cas, bref, la scène finie, tu sais, elle dit, si jamais tu recommences ça, je te gifle. Là, il dit, OK, c'est beau.
Ben, écoute, je regardais leur âge pendant que tu parlais. En ce moment, celle qui faisait Lisa, Kelly LeBrock, elle a 57 ans.
Uh-huh.
Puis celui qui faisait Wyatt, il a 47 ans.
Ouais, c'est ça, il a 10 ans de différence.
47 ans, ça veut dire qu'il est né en... aide-moi alors. Là.
Excuse-moi, je suis en train de regarder.
En 70, Wyatt, il est né en 70. Fait qu'il avait 14 ans, le kid. Là.
Oh oui.
Il avait 14 ans quand c'est sorti. C'est beau. Mais, ouais, c'est ça, je trouvais ça drôle. Il y a un côté un peu wrong parce que ce reste que. Tu sais, ils sous-entendent.
C'est l'inverse, aurait jamais été possible.
Exactement. Mais ils sous-entendent que Wyatt a couché avec Lisa le premier soir, là. Ouais. Parce qu'il dit, au milieu de ma routine de gymnastique. Tu t'es endormi. Non, pas de même, là. Mais, fait, je trouvais ça... Ouais, c'est ça que je me disais. Hey, on peut pas... Ça se peut pas. C'est même pas pensable de faire un film à l'envers, tu sais.
Non, deux c'est filles absolument qui... impossible.
Puis, en même temps, c'est impensable en 2017 de faire ce film-là. Je suis sûr. Ça se peut
ça
pas.
Ça passerait plus.
Ça passe pas, man. Je sais pas si vous êtes d'accord, là, ceux qui nous écoutent, là, mais ça passerait pas en 2017.
Non, ça ne marcherait pas en tout. Moi, j'aimerais ça justement parler des acteurs parce que c'est un drôle de cast.
Ouais, j'ai juste mis les trois principaux, mais je pense qu'on va élaborer parce qu'il y a...
Ouais, on va élaborer parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui méritent d'être soulignés. Entre autres, les deux, les trois principaux personnages, mais surtout les deux garçons. Il y en a un, celui qui est le plus connu, c'est Anthony Michaels Hall, qui est un acteur qui a poursuivi, il a joué dans plein de trucs. Là. Black Knight, Dark Knight, pardon. Edward Scissorhands, Breakfast Club. Il a fait... qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein d'affaires.
Hey, t'as-tu remarqué, je trouve qu'il me fait penser à un pruneau.
Un pruneau.
Ouais, je trouve que sa face, c'est pruneauifié. Tu sais, un pruneau séché, là, ça il y a de l'air de ça un peu. Mais.
Je peux pas dire que c'est. Ça m'a. Non.
Je trouve qu'il y a un air de pruneau séché. Parce que quand j'ai vu, j'ai fait. Ah, c'est lui, tu sais. Il se ressemble pas en tout, là. Il n'y a pas. Bon, bref, ce que j'essaie de dire, il n'y a pas bien vieilli, monsieur. Oui, je suis superficiel. Je vais m'envoyer des mails. Mais. Anthony Michael Hall, toi, qu'est-ce que tu penses de sa performance?
Ben, clairement, entre les deux garçons, c'est le meilleur.
Oui.
C'est le seul qui, je trouve... pour ceux qui ont déjà vu le film, on parle du blond et non pas du brun. OK, il y a le blond puis le brun, on parle du blond. Bref, c'est le seul qui réussit vraiment, je trouve, à nous donner un sentiment... quelconque. Wyatt, il est très unilatéral, je trouve. Anthony Michael Hall, il est très... il y a des moments de sentimentalité, mais il y a des moments de niaiserie ultime. Puis justement, on parlait de la scène du bar où est-ce qu'il est complètement saoul. C'est beautiful. C'est ouais. beautiful. Bref, c'est... je trouve que c'est le meilleur des deux garçons.
Je trouve que c'est, dans le fond, moi je trouve qu'Anthony Michael Hall, il a vraiment un meilleur registre comique. T'sais, c'est, il y a un côté humoriste assez, assez bon. T'sais, il punch bien. Il, le film est écrit vraiment pour ça. Son personnage est le plus drôle et celui qui fait des blagues. Ce que j'ai aimé, par contre, de Ellen Mitchell Smith,
oui.
c'est. Je trouve que c'est lui qui a le plus. Tu sais, c'est lui qui avait le plus d'innocence. Qui allait chercher. Tu sais, quand il fallait vraiment aller chercher le côté. Que, hey, man, ils ont juste 15 ans, 16 ans. Là. 15 ans, 16 ans, tu penses que t'es vieux pis t'as dans la vue des. Non, 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 man, t'es un enfant. T'es-tu en train de mourir, ça va?
C'est à moi. Chacun un tour.
Ouais, mais. Fait ça, c'est ce qui est bien, c'est que les deux sont toujours dans leur force dans le film.
Ouais. Ben, c'est ça. Les deux personnages sont très différents, mais tu sais, souvent, quand on a des espèces d'histoires de même, pourquoi deux personnages principaux, tu sais? Pourquoi pas juste un? Mais là, vraiment, les deux font la paire, tu sais? On a vraiment besoin des deux à ce moment-là. C'est pas juste comme Dumb and Dumber où est-ce que, tu sais, les deux sont juste caves, puis c'est ensemble que l'humour se passe, tu sais? Puis là, il y a un troisième personnage principal qui est intégré. Fait que le triangle, à un moment donné, tu sais, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Oui, il l'est.
Ouais.
Parce que les deux personnages, les deux garçons, vraiment ont chacun leur niveau. Mais comme je dis, moi, de façon générale, je trouve qu'Anthony Michael Hall est plus... est mieux... Pas fini, je trouve. Il a un meilleur talent.
Il est plus efficace. Il est plus efficace. Plus efficace dans ce qu'il fait, ça, c'est clair. C'est ça, puis ce qui est hot du duo qui est créé là-dedans, c'est que ça vient faire, on a déjà parlé, puis j'ai déjà parlé, tu sais, quand je dis un film, il y a une affaire, tu sais, c'est trop sucré, hein, c'est comme trop la même saveur tout le temps, c'est que ça permet de balancer les saveurs.
Oui.
Fait que c'est génial, c'est bien dosé, c'est bien fait. On va continuer dans la liste avec Kelly LeBrock, qui fait Lisa.
Elle est vraiment bonne.
Oui, j'ai été fasciné.
Tu sais, pour une fille là, dont on se le cachera pas, là, elle a été engagée pour son physique. Là.
Ah ouais?
Mais c'est une très bonne actrice.
Non, mais moi, je la trouve efficace, on the point, pour ce qu'elle fait. Je pense que Yves n'est pas d'accord avec nous autres. Hein? Dans le chat là, de Twitch, il n'est pas l'air d'accord. Mais comme actrice... Elle fait très bien la job. Je trouve qu'elle a... Il y a une brillance. Il y a une vivacité d'esprit au personnage qui est très important parce que... Okay, il crée, genre, la fille... la pitonne, la fille parfaite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de la rendre la plus intelligente possible.
Ils essayent de donner le cerveau à Albert Einstein.
C'est ça. Et elle est extrêmement bright parce que eux, ces jeunes-là, tout ce qu'ils veulent se faire, c'est une espèce de pitoune pour, tu sais, une pitoune. Puis elle arrive là, puis elle est tellement bright qu'elle saisit les jeunes tout de suite comme ça, elle comprend, puis elle les amène exactement là où ils doivent aller. Et c'est ça qui elle fait bien. Tu sens cette sagesse-là avec la folie.
Ben c'est ça, j'allais dire, parce que là, tu parlais du personnage, mais il y a l'actrice qui réussit à nous faire sous-entendre ou à nous faire sentir le parfum de cette espèce de sagesse sous-jacente au personnage, puis de nous rendre... c'est elle qui nous tient la main, en fait, tout le long de l'histoire, pour nous faire comprendre que c'est un voyage... Comment j'ai dit ça tantôt? Un voyage initiatique?
Oui, ouais.
Puis, elle agit plus comme une grande sœur qui a ses instants de folie. Mais pas comme une blonde, pas comme une mère, pas comme... C'est vraiment... Moi, je trouve vraiment que c'est la grande sœur dans ce film-là.
Oui, mais écoute, à un moment donné, la fille, elle demande, est-ce que t'as... Tu sais, il y a une des filles, parce qu'il y a les deux filles qui sont avec Robert Downey Jr. et l'autre tweet, là. Il y a une des filles qui demande à... Garrett, c'est ça? Écoute,
Gary.
J'ai combiné Wyatt puis Gary. Ça fait Garrett. est-ce que t'aimes Lisa? Puis il dit oui. Comme une sœur.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. J'avais oublié la scène, mais c'est exactement ça.
Puis c'est Oui, ça devient une grande sœur. Elle s'occupe d'eux, même si elle couche avec. Mais
ben, c'est pas dit. C'est sous-entendu.
En tout cas. Mais ouais, c'est vraiment hot. Puis elle fait bien. Elle a une douceur aussi. C'est ça. C'est qu'elle passe bien la vivacité. C'est ça, c'est un personnage complexe qui est à la base. Aurait dû être le typique chick in a bucket des années 80. Mais non, c'est une affaire que j'aime aussi. Ça démontre, si on fait un lien avec le scénario, une bonne écriture, un bon des bons personnages, des personnages qui ont une richesse, ça donne de quoi d'intéressant.
Oui, 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 absolument. Qu'est-ce que tu as pensé des... Ah non, de... voyons, Bill Paxton.
Bill Paxton, man. Moi, je l'ai vraiment aimé dans cette affaire-là, parce que
Il y a tellement de la colonne.
Tu veux tellement. T'as le goût de casser la gueule. À chaque fois que tu vois, tu fais comme, man, je le passerai à travers le mur, là. Mais. Puis c'est exactement ça. C'est le grand frère con, genre, qui est super désagréable. Puis Bill Paxton, il fait parfaitement. Il était payé. Tu sais, quand il pogne l'œuf, là. Tu sais, quand il a le déjeuner, ah, maintenant, fais-toi-en un. Bam, il pitch l'œuf
au plafond.
Ouais.
L'œuf casse dans le poêle en retombant. C'est magnifique.
Moi,
ça m'a levé une question que je garderai peut-être un peu pour plus tard, en fait, cette question. Enchaînons.
Tu sais, la scène où il se fait transformer en espèce de... C'est ce qu'il a dit, Chet de Hot. Mais c'est de gros tas de trucs. C'est tellement satisfaisant comme scène, man. T'es tellement comme...
Ouais. Ah oui, vraiment.
Yes!
Quand mon tabarouette. Qu'est-ce que t'as pensé de Robert Downey Jr.?
Il est pas... Moi, je l'ai pas trouvé si bon que ça.
Il est vraiment pas bon.
C'est comme... quand j'ai vu, j'ai fait « C'est Robert Downey Jr., ça? » D'ailleurs, dans le film, c'est pas Robert Downey Jr.
Ah non?
Non, les credits, c'est Robert Downey. Point.
Ah, ok.
Il y a pas de junior.
Okay,
okay. Il est mauvais. Mauvais, là.
Non, c'est pas très, très bon. Hein. C'est...
Il y a zéro acting, on dirait, dans ce qu'il fait, là. C'est... Ouais.
Je pense que c'est l'époque de la poudre blanche, beaucoup, là.
Ben, en fait, je pense que c'est pré-poudre, là.
Ah, ouais.
Ouais, c'est pas mal le début de sa carrière, ça, là. Il n'y avait peut-être pas encore les moyens de s'acheter de la poudre. Mais. Tu sais, ça coûte cher de sniffer de la coke qu'une une pute. Mais. Faut que tu puisses payer la coke avec la pute. Ah, mais. Il a tourné un film en 70 qui s'appelait Pound. Il est né en quelle année, man? Il avait quel âge en 70? Minute. Il est né en 60... Il avait 5 ans. Ah, regardons. Hein? Il a tourné son premier film à 5 ans. Toi, qu'est-ce que t'as fait à 5 ans? Hein?
J'ai écouté Weird Science.
C'est ça. Après ça, il a fait un autre en 72, 75. Fait que son premier film vraiment connu, où il y avait un... Il parlait pis tout, c'était en 85, Weird Science. Fait que... Ah non, écoute, il est pourri. Il est pas bon. Mais... Ouais, c'est ça. C'est lui, il est... Il est juste avant sa poudre. Peut-être la poudre l'a aidé. Peut-être c'est ce qu'il avait besoin pour jumpstarter sa carrière.
Voilà.
En tout cas, ça l'a sûrement rendu plus énergique que dans ce film-là. Mais...
Sinon, moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse une mention honorable à un type qui s'appelle Michael Berryman.
Mutant Biker.
C'est le mutant des années 80.
Ah, ouais, mais il est pas beau, là.
Ah, mais il est vraiment pas beau, ce monsieur-là, là.
Ah, man, c'est comme... Pauvre dude, là. Mais il a joué dans Star Trek 4, man. Il faisait un Starfleet Display Officer. Ah, il a joué il a joué dans The Crow, mais les scènes dans lesquelles il était, ils ont été effacées. Ils n'ont pas été utilisées dans le film.
Beau.
Double Dragon. Oh man, faut tellement qu'on fasse un épisode sur Double Dragon.
Il a joué dans The Highwayman, The Barbarian Brothers.
Ah, il a joué dans Scooby-Doo. Il fait une tête de zombie. Mais... Ah, il a joué dans beaucoup de films d'horreur. Surtout des films d'horreur mauvais. Mais, ouais, mais... tu peux pas ne pas le... Tu peux pas le manquer, ce gars-là.
Non. Il a joué dans Conan.
Allez faire une recherche sur Google. Là. Googlez Michael Berryman. Checkez les images. Vous allez comprendre ce qu'on dit. Là. Y a-t-il des effets spéciaux dans le film, genre? Ben, des effets ordinateurs.
Il y a des effets spéciaux, des électricités dessinées sur les pellicules. Ouais. Que ça, c'est vraiment mauvais. Mais les effets pratiques sont vraiment bons.
La scène où les trucs, ils se font aspirer et ils sortent par la cheminée.
C'est vraiment bon.
C'est vraiment bien fait, ça.
Moi, ce que j'aime, c'est la scène où est-ce qu'il y a le missile qui sort de la maison.
Moi, tu vois, sais-tu quoi? Je préfère la scène où le missile, il rentre.
Ils ont juste passé le film à l'envers.
Parce qu'ils sont là. C'est pas la même scène. Il me semble, parce qu'ils sont là à côté quand le missile rentre. On les voit, tandis que quand...
Ben, non. On voit le missile descendre pendant qu'ils sont là.
OK, on les voit
pas.
Mais quand...
Oui, on les voit. Mais c'est quand le missile, il rentre dans le sol, il y a personne, là.
Je pensais qu'il était là encore.
Donc, en fait, ils ont juste fait... C'est quand le missile a sorti du sol, ça a tout déchiré le plancher, puis on passait le film en envers, fait que le plancher, on a l'impression qu'il se refait, tu sais, mais pas pantoute. C'est beau.
C'est beau. Mais... écoute, c'est... Mais c'est ça, cette scène-là, que tout sort par là, c'est magnifique. Puis ce que je me demande, c'est... La scène, parce que la scène où tout se replace, c'est pas la même chose. Fait que là, c'est pas à l'envers. Ça, c'est refait. Non. Puis ça, je le trouvais encore plus impressionnant. Surtout, tu sais, quand les parents, ils ouvrent la porte.
La table, elle arrive.
C'est vraiment cool, ça.
Vraiment très bon, ça.
Les effets pratiques, c'est génial. En tout cas, j'ai l'impression que le cinéma, aujourd'hui, tente à retourner un peu vers là, hein. Quoique j'ai regardé Guardians of the Galaxy l'autre jour, puis ça t'a 90% du film n'existe pas, sinon plus. c'est parce que quand tu sais que c'est des effets pratiques, tu te poses la question, comment ils ont fait?
Ouais.
Je sais que c'est fait, mais man, c'est bien fait. Tandis qu'à l'ordinateur, ils ont fait du CGI, c'est tout. Hein?
D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Cette semaine, j'ai commencé à écouter une série sur Netflix qui s'appelle Breaking the Magician's Code. C'est une série des années 90. C'est The Magician. Ils font des tours, puis après ça, ils les expliquent. T'sais. Mais les plus grands comme les plus petits. Là. C'est vraiment cool.
Ouais, j'écoutais ça avec mes parents dans les années 90. Ça passait genre à Fox, c'est ça?
Je me souviens plus, là, mais c'était une affaire comme ça. Là. Bref, dans les show notes, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que tu as écrit dans décor et costume.
80s, baby! Non, mais c'est vraiment... tu sais, quand ça sent le fumier intense, là... Mais là, ça sent les années 80 comme ça. Tu sais, comme là, justement, entre Montréal et Sherbrooke, en ce moment, là, tu sais, ça sent la merde dans ta barouette à ce temps-ci de l'année, là. Mais ce film-là, il a la même odeur... Mais c'est une odeur de cheveux crêpés et d'épaulettes. C'est
Soul Glow.
Ah non, hey, c'est tellement années 80. Et ça me fait poser la question. Parce qu'il y a beaucoup de choses des années 80 qui reviennent à la mode aujourd'hui. Là. Puis ça m'a fait poser la question. Sérieux, pourquoi? Tout le monde qui a vécu dans les années 80 là, ne veut pas y retourner. Là. On veut pas avoir de l'air de ça encore. Là.
Non.
Non. Une fois, c'est assez. Là. Mais ceux qui n'ont pas vécu dedans, ils trouvent ça cool. Là. C'est comme non, man. C'est pas beau. Je veux dire, on a scrappé la couche d'ozone avec le Sprinet dans les années 80. Hein.
C'est même pas une joke.
Le pire, c'est que c'est vrai. Mais, ah non, c'est... Toi, ça t'a-tu rappelé des mauvais souvenirs?
Ben, moi, dans les années 80, tu sais, j'étais tout petit, c'était avant l'adolescence, fait que j'avais les cheveux châtain pâle, lisses et raides.
Hey, comme moi!
Fait que, non, mais tu sais, vraiment, là, j'avais les cheveux, j'avais la petite raie sur le côté, là, puis j'étais peigné sur le côté, comme ça. Fait que là, évidemment, avec l'adolescence, ça a changé, puis à cette heure, j'ai plus l'air d'un black qu'autre chose, là.
Mais t'as-tu vu, tu connais mon fils, là?
Ouais.
J'étais exactement de même à son âge.
Sauf que moi, il était mou, mes cheveux, ils tenaient pas droit du sol.
Fait que David était mou. Maintenant,
j'étais mou l'été.
T'étais mou. Là, tu l'es plus. Et dans quelques années, tu vas être remou. Et remis mou derrière. Vous écouterez Kaamelott. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur un...
Ah, ça serait malade.
Sur Kaamelott.
Donc, ben écoute, moi, je suis prêt à enchaîner.
J'ai hâte d'entendre ça.
Sébastien.
Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est... Pour ceux... Tu sais, pour vous mettre au courant, avant l'émission, on se parle un peu. Là, j'ai dit... Je dis à David, ah, tu sais, c'est qui, hein, le chanteur de Oingo Boingo? Puis là, il est comme, oh man, c'était ma question du geek.
Fait que j'étais super fier parce que j'ai dû chercher en tabarouette là, pour savoir ça, là, pour trouver ce détail-là. Fait que j'étais un peu déçu. mais oui, bref, ma question de la semaine, c'était la chanson, le thème du film que voici. Voilà, donc la chanson du film Weird Science a été chantée par un groupe des années 80 qui s'appelait Oingo Boingo. Et ma question pour Sébastien cette semaine, c'était qui est le chanteur de Oingo Boingo, dont la guitare d'ailleurs a été exposée au Hard Rock Café de Montréal jusqu'à sa fermeture en 2009. Et la réponse à la question, c'est Danny Elfman, le compositeur de musique de film.
Le célèbre Danny Elfman qui a commencé sa carrière comme frontman, comme chanteur et leader du band Oingo Boingo.
Oui. Donc, je dois me retourner de bord rapidement et poser des questions à Sébastien. Parce que tu crois que tu vas... ben, premièrement, je vais te donner un 10 sur 10 parce que tu le savais. Mais j'ai deux questions pour toi. Et parce qu'un peu plus tôt, on parlait de Bill Paxton. Et puis, en écoutant le film, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Donc, d'emblée, je te la pose. Man, il a quel âge, ce gars-là?
Bill Paxton...
Il vieillit comme fort. Oh.
Ben là, il vieillit plus parce qu'il est mort. Mais...
Au moment de... Sans regarder sur Internet, montre-moi tes mains. Au moment de l'enregistrement du film, Bill Paxton avait quel âge? Au moment d'enregistrer Weird Science. Ben, en fait, ça a probablement été enregistré l'année d'avant. Donc, mettons, en 1985, quel âge avait Bill Paxton?
T'as une minute. Il est mort en 2016?
Quelque chose comme ça.
Ouais, fait que là... Mettons, il devait avoir à peu près...
Il est décédé cette année. Il est décédé le 25 février.
Ah oui, en février 2017.
J'ai déménagé, moi, le 25 février 2017.
Fait que là, si on divise par 2, multiplié par 3,5... Mais attends, j'essaie de faire... Hey, là, j'arrive pas à calculer en ce moment. Là. le film, il date d'il y a 32 ans. Il avait 28 ans.
Il avait 30 ans. Il est né en 55.
Oh, quand même, j'étais pas loin, là. Je savais qu'il y avait autour de 60 ans quand il est décédé, fait que...
Et ma deuxième question en rafale pour toi. Dans les deux acteurs principaux, Anthony Michael Hall, qui jouait Gary et continue une carrière d'acteur. On en a parlé un peu tantôt. On n'a pas parlé, par contre, de la carrière d'acteur de Ilyen Mitchell Smith. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ce gars-là?
Il fait des annonces de Viagra. Mais...
Non, pas du tout. Non? Pas du tout, pas du tout, du tout. Je vais te le donner en mille là, parce que tu as eu 10 sur 10 à ta question du geek, mais il a fait un doctorat en littérature médiévale anglaise. Puis maintenant, il est professeur d'université sur la littérature médiévale. Il n'est pas acteur pantoute.
Professeur?
Ouais, il a fait une couple de films entre les années, tu sais, entre 84-90, là, il a fait le même. Une couple de trucs, là, mais vraiment pas grand-chose. Puis après ça, il a poursuivi ses études universitaires, il a pogné un doctorat, puis à ce temps, il enseigne la littérature médiévale.
Shit! La littérature médiévale, on m'en attendait pas à ça, hein?
Mais bref, Sébastien, un 10 sur 10 pour toi cette semaine.
On va continuer avec les extraits de la semaine. C'est un film quand même qui pas pire pour les extraits. Là. La plupart des extraits viennent quand même genre du premier deux tiers du film parce qu'à un moment donné, c'est assez répétitif dans le type de joke dans les extraits. Fait que... On va commencer par la règle de la main. Puis c'est drôle parce que je crois que la semaine passée. Je pense que c'est la semaine passée. T'sais, on va écouter la règle de la main, puis je vais dire ce que je veux dire. T'sais.
Anything bigger than a handful, you're risking a sprain, Tom.
Anything bigger than a handful, parce qu'il parle des seins qui vont faire des seins. Anything bigger than a handful, you're gonna sprain your thumb. C'est trop ça. Puis, je pense que il me semble que la semaine passée à Brasserie, après la répète de VMF, on parlait justement de ça.
Hey, vous avez des belles grosses discussions, là?
Oh, on a toujours des discussions existentielles là-bas, mais on parlait de la main. Tu sais, genre la grosse. Ceci étant dit, moi, je trouve que tu te limites dans la vie. Parce que, tu sais, regarde-moi, là. J'ai des petits doigts, genre. Ils sont pas très longs. Tu sais, j'ai le format saucisse à dog, moi, là, tu sais.
C'est un peu genre. Saucisse à cocktail.
Saucisse à cocktail, genre, tu sais, c'est des boudins, tu sais. C'est large, mais c'est pas long. Toi, là, t'as un avantage quand même assez. Parce que. Je suis pas d'accord avec cette règle-là. Écrivez-nous si vous êtes d'accord avec la règle.
Puis en plus, un handful, tu sais, vous êtes entre ça. Oh, pardon, en avant de la caméra. Entre ça. Puis ça. Ça fonctionne quand même, là.
Ça, c'est comme une portion de viande. c'est supposé d'être ta main, là. Mais man, hey, j'en connais des. Tu sais. Tu sais, des pianistes. On connaît tous des pianistes, là. Non, mais c'est quoi que c'est les doigts qui sont plus longs? Mais je connais du monde qui a des cristiques grosses mains, man. Ils ont le droit de pouffer des plus grosses steaks que moi, là. C'est pas normal. le prochain. Hein?
Magnifique. Mais tu sais, quelle belle scène, tu sais. Ah ouais, là, on va leur faire programmer une affaire à l'ordinateur, là. Puis après ça, ils vont plugger des fils électriques sur une poupée. Puis après ça, ils vont. On va leur mettre des soutiens-gorges sur la tête. Ça va être malade!
Ah, les soutiens-gorges sur la tête, man. C'est tellement hot. C'est tellement magnifique. Moi, t'as-tu déjà mis des soutiens-gorges sur ta tête?
Non. Et dans le slideshow, justement, la photo qui vient de passer, on voit à un moment donné, plus loin dans le film, les deux gars invitent leurs deux anciens ennemis, Robert Downey Jr. puis son compasse, à se créer une créature de rêve, eux autres avec. Puis ils ont tous des soutiens-gorges à la tête. Ils sont tous pareils, les soutiens-gorges. Ouais. Moi, j'ai quand même connu une couple de filles dans la vie. Là.
C'est parce qu'il y en a qui achètent. Tu sais, en grande quantité.
mais moi, j'ai jamais rencontré une fille qui avait deux soutiens-gorges pareils.
Non, non, non. En tout cas.
Just saying.
Mais, Fait que t'as jamais mis un single sur ta tête. Ok. Il y a un follow-up à ma question. As-tu déjà mis des bobettes sur ta tête?
Je pense pas.
Ça peut être les tiennes ou ceux de quelqu'un d'autre. Là. C'est pas spécifique. Pas.
Okay. Ou, ah, mais je l'ai peut-être fait pour faire rire mon frère.
Ah, moi je le fais régulièrement. Possible. Mais. Ça fait rire les enfants. Mais.
Ben, c'est ça, mon frère, on se rappelle que j'ai 20 ans de différence avec mon frère. Ouais. Fait que quand j'habitais encore chez ma mère, mon frère avait, tu sais, genre un an, une affaire comme ça. Ça se peut que je l'ai fait pour le faire rire à ce moment-là.
Non, mais ça m'est déjà arrivé aussi comme méthode de transport de mes bobettes de ma chambre à la salle de bain pour me prendre ma douche. Oh, je l'avoue.
Non, mais tu sais, t'as le droit.
C'est un livre, je suis un livre ouvert, fait que je viens d'avouer à Internet que je me suis déjà promené en bobette. Ben, pas. Ça, de me promener en bobette, ça va. Mais avec mes bobettes sur la tête.
Ok, on enchaîne.
Le prochain, là, je suis perturbé là, parce que je viens de dire. Lisa.
Lisa?
C'est. Voyons, Gary qui.
Lisa?
Qui dit ça.
Ça vient de quand?
Quand il arrive au bar.
Ah oui, oui, oui. Puis là, il y a comme une espèce de table avec plein de blacks. C'est très drôle.
Maintenant, le prochain extrait, c'est... Voyons, je suis perdu dans mes affaires. Ah ouais, c'est juste pour le sexe.
What's a beautiful bride like you doing with a malacca like this, huh?
It's purely sexual.
No shit.
J'aime le no shit. C'est beau. No shit.
Mais c'est quand même une belle scène, tu sais. Ils arrivent, puis là, ils ont super peur de l'espèce de table avec plein de blacks, puis c'est weird, là. Puis ils regardent avec des espèces de yeux de tueurs, puis. Un peu plus tard en soirée, ils sont tous assis à table, ils sont tous sous, puis là, ils parlent de leur vie, puis de leur femme, puis de leur...
Oh, puis...
Les gars sont comme « Ah, ouais, ouais! »
D'ailleurs, ça m'a donné d'autres extraits, cette affaire-là. Comme le prochain, gros, gros.
« Check with those big, big titties!
» C'est mon préféré.
Big big titties!
Big big titties! Attends, je vais le remettre.
Check with those big big titties!
Ouais.
Ah, j'étais pas en retard dans le Patreon de mettre les extraits. Là. Je vais en mettre plein d'un coup. Je suis sûr que celle-là. Là. Ça, c'est une belle sonnerie de texto. Là. Big big, big titties! oh oui, bijoux. Marc, c'est encore dans la même conversation.
In the family jewel!
In the family jewel, man!
And the family jewels.
Ah, le prochain. On a un rire.
Ouais.
Bonjour, malade. Un autre à rajouter à notre, à ton melting pot.
Ah ouais, j'ai pensé à toi. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un rire de Chet.
De Chet. Tu sais que... Sans le dire à personne, il est arrivé avec la célèbre coupe de cheveux sur le plateau. Il n'en avait pas parlé au producteur, au réalisateur, pardon.
Hey, la
là,
coupe...
Il a fait comme... Non, mais c'est hallucinant, la coupe de cheveux, là.
Hey, parfaite. On dirait que, le... man, ça a été au laser. Mesuré au laser, cette affaire-là. Là.
C'est hallucinant. Puis ça donne vraiment l'espèce de look militaire qu'il y a de toute façon. T'sais. Puis quand il s'en va à la chasse avec son gun, ça fonctionne à 100 000 à l'heure, cette coupe-là. Ah, c'est hallucinant.
Ah, c'est beau, 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 beau. Ah oui, barbelé, hein? Écoutez bien ça.
Do you have a bra to match that? Something leather or rubber or barbed wire?
Give me a break.
J'aime la vieille madame. Give me a break.
Moi, c'est la phrase juste avant ça. Où est-ce que Lisa était dans le magasin de lingerie, puis elle a une espèce de petite bobette là, vraiment
minimaliste.
Minimaliste, voilà. Elle dit, si vous étiez un petit garçon de 14 ans, est-ce que ça vous turnerait on?
Ah! Oh. Ah, oh, la madame est vraiment comme... Mais moi, c'est une brassière en barbelé, man.
Aussi efficace que les chainmail de filles dans... Dans les dessins de Donjons Dragons.
Oh, man. Ouais. Party.
You know, there's going to be sex, drugs, rock and roll, chips, dips, chains, whips. You know, your basic high school orgy type of thing. I mean, I'm not talking candle wax on the nipples or witchcraft or anything like that. No, 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 no. Just a couple of hundred kids running around in their underwear, acting like complete animals.
J'adore la musique d'ascenseur qui est en arrière.
C'est la liste avec la petite orgue électrique. Oh, c'est bon. Okay, c'est le temps de plugger le mot fétiche de Vision X. Dichotomie.
Ah ouais, c'est... Si vous savez pas ça veut dire quoi, dichotomie, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que... Ce que Lisa dit, la musique qui est en arrière, là. Ah, mais c'est vraiment... I'm not talking about... C'est quoi, wax on the nipples?
Witchcraft or anything, any shit like that.
Chips, dips and whips. C'est un beau poème. Hein. Chips, dips and whips. On dirait une comptine pour enfants.
La fille reçoit les textes, il faut qu'elle apprenne ça par cœur. Fait que là, chez eux... Chips, dips and whips. Chips, dips and whips. Chips, dips and whips.
Mais c'est encore plus beau quand c'est dit par quelqu'un avec un accent british. Tu trouves pas? Ça rend ça plus... Quand... c'est plus élevé. Chips, dips and whips.
Tu sais, c'est correct qu'il y a des chips, des dips, puis des fouettes, puis des orgies, puis toute la patente. Mais pas de la cire sur les nipples, tu sais.
Ah, ça, de la cire sur les nipples, non. C'est pas bon. Ça, c'est ça. Je sais pas, je voulais faire une blague.
Il y a comme une coche, là, tu sais.
Ah, ouais, c'est ça. Une orgie, c'est correct. Tant que tu mettes pas de cire, c'est une épaule. Là, les parents réagissent. Ah oui, pète.
If you're gonna float an air biscuit, let me know, okay?
Float a what?
If you're gonna fart, if you're gonna squeeze cheese, let me know, okay? I'll hit the fan.
Moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est la réaction de... What? Ça implore what? An air biscuit. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Mais float an air biscuit, ça, c'était une première fois.
Oh, c'était carré.
La scène est magnifique, là.
Écoute, moi, c'est le concept que... Tu sais, on est pas mal proche, Sébastien, là. On a vécu quand même une couple, là.
Ouais.
Si on a fait des affaires ensemble, des niaiseries en masse.
Ça, on le ferait pas.
Non, mais en fait, on s'est jamais retrouvés ensemble d'une salle de bain en même temps. Ou est-ce que il y en a un de nous deux qui se dit « Hey man, faut vraiment que je m'assoie, j'ai des problèmes gastriques. » Puis que l'autre est à côté. Tu nous as ça, non.
Il y a un degré d'intimité absolument incroyable dans leur affaire, là.
Bon, d'un autre côté, tu vas me dire, tu sais, la fin de semaine de Donjon Dragon qu'on avait faite.
Ouais, c'est comme si t'étais aux toilettes avec moi.
Pour mettre les gens en contexte, c'est que Sébastien, moi, notre troisième mousquetaire, Philippe, mon frère Nathanaël et aussi un autre ami, Luc Lapointe, on a fait une fin de semaine de Donjon et Dragon, en fait, le 15 septembre 2015, pardon. Je m'en rappelle parce qu'en revenant de cette fin de semaine-là, c'est à ce moment-là que Nancy m'a annoncé qu'elle était enceinte. Bref.
Oh.
Bref, on est parti dans une fin de semaine, pour une fin de semaine, dans un chalet, dans le bois. D'ailleurs, c'était le chalet de Bernard Adamus. Et puis, quelle fin de semaine weird, là, de Sébastien qui m'appelle, on est en chemin avec moi et mon frère dans le char. Sébastien m'appelle, dit ouais, je veux te dire, il n'y a pas de problème, là, il y a tous les électros, là, il y a un frigo, il y a un barbecue, mais.
Il n'y a pas de four. Puis Bernard qui avait assuré Philippe qu'il y en avait un. Il y avait un barbecue qui n'avait plus de propane.
Ah, magnifique. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est cinq gars dans un chalet tout ouvert pendant une fin de semaine. On a joué 36 heures de Donjon Dragon. Hey, je suis frosté sur l'image.
Ça va être
On a joué 36 heures de Donjon Dragon sur 48 heures de chalet. Et là, donc, dans les 12 heures qu'on n'a pas joué à Donjon Dragon, il y a d'ailleurs deux nuits. Et puis, dans ces deux nuits-là, cinq gars d'un chalet qui font juste manger de la viande rouge, manger des patates, du bacon, puis boire de la bière.
En fait, on a commencé à boire de la bière à 10h le matin. Là.
Ouais. Oh my God, ça... Puis là, on dormait, puis on dormait. Là, Philippe, le lendemain de la première nuit, il dit « Ouais, cette nuit, j'ai pas super bien dormi. J'ai lu un peu, puis j'écoutais la symphonie des temps.
D'ailleurs, je peux en profiter pour m'excuser à Bernard Adamus. Je pense qu'une de ses chaises de son chalet ne sera plus jamais la même, là. Après que j'ai passé la journée à péter dessus. Mais bon... tant qu'à avouer des choses là, aujourd'hui là, sur Internet, là, on va continuer.
Ok, fin de parenthèse.
T'sais, au détecteur de mensonges, pas pire ça. J'ai odoré une chaise à Bernard Adamus. Mais odorifié. on va terminer avec Pondre Neuf.
Do you feel like a chicken?
What if I could shoot an egg on my ass right now, I would.
« You feel like a chicken ». J'aime la réponse. Mais je trouvais que c'était un... Tu sais, quand je te disais tantôt que Wyatt, c'est le plus... c'est l'innocence, le plus enfantin, puis l'autre, c'est celui qui a la répartie vraiment. Puis ça, c'est un exemple de répartie de Gary, tu sais. Genre, tu te sens-tu comme un poulet? Ben, si je veux pondre un œuf, oui.
Le plus enfantin, puis l'autre, c'est...
Oh, shit! Oh, shit! J'entends la voix de Dieu. Non, c'est... On va continuer avec la musique.
Cue the music.
J'aime la musique.
Donc, la musique de Iron Newman. Écoute,
j'ai pas, une barre, hein?
J'ai pas remarqué. Je m'en souviens que des fois, il y avait de la musique comme composée pour le film, là, mais.
Ni vu ni connu. Ouais. Je l'ai pas remarqué, pas tout.
Non. C'est un bon signe, ça.
Je sais pas, mais tu sais, Oingo Boingo, je l'ai entendu. Puis il y a beaucoup de
musique.
La musique pop,
d'ascenseur a... aussi.
La musique d'ascenseur, c'est magnifique. Mais Iron Newman, zéro pinball.
Mais le thème d'Oingo Boingo, là,
c'est écœurant.
C'est écœurant. C'est, encore une fois, les films de John Hughes, ils sont iconiques des années 80. Puis la musique, c'est un concentré d'années 80. Assez incroyable. Mais ouais, Iron Newman, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a écrit là. Peut-être qu'il a écrit des bruits de fond là. C'est peut-être lui qui a écrit la musique d'ascenseur. On sait jamais. Fait que c'était le segment musique le plus court de l'histoire de Vision X. On continue avec David, donne-nous ton score.
He scores!
8 sur 10! D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au début de l'enregistrement de l'émission, c'était pas le même score que t'avais écrit.
Non, mais après ça, en parlant, j'étais comme, la manière que je parle, là, ça fit pas avec ce que je dis.
Rappelle-moi ça.
La manière que je parle, là, ça fit pas avec. Non, mais ce que je dis puis ce que j'ai donné comme score marche pas. Et tu sais, comme à moi, c'est important d'avoir.
D'être conséquent
dans les commentaires et dans mes notes. Donc, c'est pour ça que je l'ai changé.
Mais oui, donc on s'entend bien là-dessus. 8 sur 10, je trouve que c'est vraiment la note qui va le mieux à ce film. C'est vraiment un classique des années 80. Ça s'écoute bien. C'est pas un film qui est très long. Hein? C'est un 1h31. Film qui dure... Ouais, c'est ça, 1h30, là, ça s'écoute comme rien. Le pacing est super bon, les acteurs sont bons, l'histoire est bien pensée, c'est drôle, on s'attache aux personnages, ça fonctionne, c'est super bon. Ça pourrait être mieux, il pourrait avoir des effets visuels un peu mieux, parce que ça a vraiment mal vieilli. Il pourrait avoir une meilleure musique des fois de temps en temps, tu sais, il y a quand même des choses à améliorer. Là.
Ça pourrait être mieux ficelé aussi. Mais...
Ouais, ça pourrait mieux ficelé.
Ça dégénère vite.
Mais c'est un très bon film à voir absolument, 8 sur 10.
Oh ouais, c'est un 8 sur 10, c'est un film très typique des années 80 avec un cast central qui est fort et un cast de soutien puis d'autour qui est absolument à chier. C'est vraiment, je trouve, très années 80 ça. Là. Les personnages principaux sont hâte, le reste, ils ont trouvé... genre
d'une boîte de crackers.
Ben, j'allais dire dans le centre d'achat à côté. Mais ouais, fait que si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Si vous avez pas, tu sais, pour les jeunes, tu sais, les millennials, les whatever, tu sais, ceux qui sont nés genre après les années 80, qui ont pas connu les années 80, si vous voulez savoir c'était quoi avoir 15-16 ans en 1985. Regardez ce film-là. Vous allez,
mais ça veut pas dire qu'on conduisait des Ferrari puis des
Non, on conduisait pas toutes des Ferrari puis des Porsche, malheureusement. Mais, ouais, c'est, puis même, tu sais, je pense pas juste 15-16 ans, c'est juste vivre dans les années 80. C'est l'essentiel de tout ça. Puis ce qu'on... Parenthèse sur ce qu'on pensait que l'informatique était en 85. Je vais vous rappeler, comme à chaque semaine, d'aller faire un tour sur notre Patreon à patreon.com/sbalbino. Ça nous permet de garder l'émission en vie, de continuer. D'ailleurs, cette semaine, c'était très drôle parce que j'ai décidé de contribuer 5$ par mois à Yves, à Pod Québec. Puis il m'écrit, il me dit « Ouais, mais là, ça annule le 5$ que je te donne. » Fait que là, il a décidé de contribuer 10$ par mois. Ce qui fait que, Yves, on va t'inviter à venir faire un épisode avec nous. Mais en passant, pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est une magnifique plateforme qui permet de connecter les créateurs aux gens qui consomment ce qu'ils créent. Et ça permet de contribuer puis d'aider ces créateurs-là, comme nous, à garder leur projet vivant. Fait que allez faire un tour là-dessus. Patreon.com/sbalbino. On est à 2$. ça va.
Excusez.
On est à 2$ de notre premier objectif. Qui va faire que David et moi, une fois par mois, pour nos Patreons, on va faire une émission exclusive sur une trame sonore de film. Et c'est vraiment juste pour les gens qui contribuent au Patreon. C'est un cadeau, on fait ça. On met nos compétences de musicien en plus à contribution, à, c'est ça? On utilise nos compétences de musicien. Hein? Fait que allez faire un tour à patreon.com/sbalbino. La semaine prochaine, on va faire un épisode sur Akira. J'ai bien hâte de voir ça, je n'ai jamais vu. Ce mois-ci, je pense qu'à part Men in Black, j'avais rien vu. Le mois prochain, on vous réserve un mois... ceux qui savent pas, là, c'est un mois David, un mois moi. Ça, c'est comme chips, dips and whips.
Fait comme dans le mois de mai, t'avais rien vu sauf Men in Black, c'est qui avait choisi les films? C'était moi!
Fait que là, le mois de juin va être un mois Sébastien. Puis on va vous donner un petit preview du mois de juin. Là. Faut juste que je le retrouve. Là. Le mois de juin, fait que là, on a Akira la semaine prochaine. Après ça, la première de juin, on va avoir Howard the Duck. Yay! J'adore ce film-là. C'est tellement mauvais. Ensuite, Sin City. Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990. Et John Wick. Hein? C'est un papé moi, David, quand même.
Ah, c'est très bon, c'est très bon.
C'est très bon. Tu chiales pas, là.
Non, non.
Moi, ce que j'aime, c'est quand tu m'écris des textos pour dire « Pourquoi t'as choisi ce film-là? »
Ça peut-être... arrive pas très souvent.
C'est quand que c'est arrivé, man? C'était-tu pour Birdemic?
Ah oui, c'est ça, c'était
Birdemic. Man, pourquoi t'as choisi
Shock
ça?
Shock and Terror.
Donc, la semaine prochaine, Akira. Pour suivre toutes les activités de Vision X, allez sur moi-geek.com/Vision X. Vous allez trouver tous nos épisodes là-bas. Une autre bonne manière de trouver nos épisodes, c'est d'aller sur SoundCloud et de chercher. Je pense que c'est soundcloud.com/Sébastien Balbino. Vous allez trouver tous les épisodes de Vision X là-bas. Vous pouvez aussi nous écrire à visionxcast@gmail.com. Vous avez des commentaires sur l'émission, si vous voulez donner votre avis sur le film qu'on vient de regarder, écrivez-nous. Allez sur Facebook, Vision X sur Facebook. Vous allez pouvoir participer à la conversation et vous allez aussi pouvoir savoir quand est-ce qu'on est là live. Parce qu'on fait les épisodes aussi live sur Facebook. Sur Twitter, @VisionX_podcast. Ça va vous permettre aussi d'être au courant à chaque fois qu'on enregistre, à chaque fois qu'on sort un épisode. Allez sur iTunes, sur Pod Québec, sur Balado Québec, sur l'Entre du Geek. Vous pouvez trouver Vision X sur tous ces endroits-là. Sur Pod Québec, ce qui est génial, c'est que vous avez aussi accès, vous avez des liens très simples vers tout ce que je viens de vous nommer. Fait que vous n'avez pas besoin de m'écouter. Vous avez juste allé sur Pod Québec puis vous allez tout trouver là-bas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, David?
Non, je pense que ça fait le tour.
Ah. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
À la semaine prochaine.